On est de retour et sa chronique a fait un succès toute la semaine. Vous écrivez sur la messagerie texte pendant qu'il est en onde. C'est Jean-Luc Brassard. Salut Jean-Luc.
Allô Martin.
écoute, les gens adorent ça d'avoir... on aime ça, on est curieux, on connaît pas ça. Tu sais. Puis je sais quand on le vit, nous autres, puis toi dans ton cas plus d'une fois, pas que ça vient de l'acquis, mais on oublie que ça impressionne les gens. Tu sais. Exemple, là, les athlètes reviennent de Tokyo. Mais quand ils sont partis, il a fallu qu'ils s'ajustent au décalage horaire. Au hockey, on dit que c'est une journée par heure. Fait qu'imagine si tu pars à Tokyo, il y a quoi, 11 heures de différence ou 13
heures? 14
heures. 14 heures de différence. C'est-à-dire c'est 14 ouais. jours où tu as replacé. Les athlètes, étaient-tu là 14 jours d'avance?
Ben non, ils ne pouvaient pas, justement. C'était des jeux qui étaient bien spéciaux. Puis d'ailleurs, il ne faut pas oublier aussi que les qualifications pour Tokyo, parce que c'est des jeux quand même spéciaux, il y a pas de, on connaît tout le contingentement, tout ça, mais le processus de qualification a été, on peut pas se le cacher, là, largement inégal. Normalement, il y a un horaire qui est bien défini, les athlètes savent longtemps d'avance quelles sont les courses qui vont compter, des fois ça peut être un compte à rebours, des fois c'est des positions, donc c'est un peu comme au golf, si vous arrivez toujours au premier sur quatre compétitions, ça vous fait un total de quatre, mais après ça, pour ceux qui arrivent 10, 21, 8, 7, ben là, le toto, faut qu'il soit battu par les autres pour préserver une place. Mais cette année, c'était tellement inégaux par rapport à quel pays pouvait sortir compétitionner pour aller se qualifier, que ça a nécessairement, on ne saura jamais jusqu'à quel point, là, brimé certains athlètes qui se sont trouvés non qualifiés, qui ne sont pas au jeu, mais qui auraient mérité d'y être, tout simplement parce que le processus de qualification, ben, lui a eu vraiment la vie dure dans le cadre de la pandémie. Mais pour ceux qui se rendent sur place, alors, ils ont très peu de temps. Ils arrivent maintenant 4 à 5 jours d'avance, vont prendre possession de leurs vêtements, qui, soit dit en passant, entre autres, au niveau de l'équipe canadienne, il y a maintenant un logiciel qui a été mis en place là, par une des employées extraordinaires, qui fait en sorte que tous les vêtements fit. Parce que il n'y a rien de plus plate que vouloir toute sa vie aller aux Jeux olympiques puis vous arrivez avec des pantalons trop grands ou un t-shirt trop petit.
Ben oui.
Puis vous regardez dans le miroir, vous avez l'air d'un clown. Puis là, c'est plate pour commencer les Jeux. Ou bien non, il y a un gars de basket qui se ramasse avec un t-shirt extra small, ça ne fit pas. Alors maintenant, tout fit, là, je pense à 99%. Et en plus d'avoir des vêtements, des pièces de rechange, advenant qu'il y a des ajustements à faire. Alors, ils arrivent, avoir ses habits olympiques, c'est le fun. Ça fait partie du kick, quand on reçoit l'accréditation, avoir ses habits, puis là, tu arrives dans ta chambre, puis tu fouilles, tu essayes toute l'affaire, tu regardes dans le miroir. Mais cette année, là, évidemment, tu passes un autre appel après, qui est de se programmer pour la course. Puis, dépendant de l'heure de la compétition, en plus du décalage horaire, il y a l'heure de la compétition. Est-ce que vous allez compétitionner très tard en soirée? Parce que les horaires olympiques, on se le cachera pas, il faut qu'ils essaient de cadrer dans le plus de fuseaux horaires possible. Puis souvent, le gros fuseau horaire, mais c'est celui des Américains, parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi. On peut parfois soupçonner que NBC fait un petit peu de pushing pour les épreuves maîtres, en l'occurrence, disons, le 100 mètres sprint, mais arrive en heure de grande écoute aux États-Unis. Alors, les athlètes se retrouvent donc avec un créneau fixe. Ils vont souvent commencer à s'entraîner à des heures pas possibles ici. Exemple, disons que vous faites du soccer à 5 heures le matin, comme mentionné plus tôt, à 4 heures du matin pour vos matchs. Mais on va peut-être se retrouver avec des filles qui s'entraînent à tout à fait l'inverse, là, à 5 heures l'après-midi ou alors à 2 heures du matin, dépendant du temps qu'ils ont. Et on a vu ça, entre autres, avec, je reviens comme exemple, avec les bosses à Sochi, qui était bon, une discipline que je connais beaucoup, mais la course, elle avait lieu à 11 heures le soir. Mais pour ce faire, les athlètes ont commencé à 11 heures le soir dans le fuseau horaire d'où était Sochi. Il y avait des athlètes qui s'entraînaient, alors ils ont fait une progression. Avec les décalages horaires, ils sont allés s'établir en Europe, dans les Alpes, du côté français, s'entraînaient à 11 heures le soir ou bien non à 2 heures du matin, allaient se coucher à 3-4 heures du matin pour se lever à 11 heures pour aller déjeuner à 2 heures l'après-midi pour tout de suite entrer dans le fuseau horaire. Mais là, la différence, c'est que pour aller à Tokyo, il y a quand même 14 heures d'avion quand on part d'ici. Et c'est difficile d'aller rester plus près avec toutes les différences de bon comment les pays gèrent la COVID aussi. Alors, il est possible, disons, d'aller en Corée puis de perdre du temps là pour s'adapter au décalage horaire. Donc, ils sont partis du Canada la plupart du temps et se sont tapés les grands vols. Et contrairement à d'autres, comme moi, par exemple, quand je fais des grands vols, je prends des antihistaminiques, des trucs contre les allergies. Puis comme je prends jamais rien, mais juste une pilule contre les allergies, moi, ça me marque pour. Je peux dormir un 8 heures de temps sans problème. Mais pour les athlètes, c'est bien plus compliqué. Exemple, si vous achetez des Tylenol à la pharmacie, tout est beau. Si vous achetez des Tylenol extra forts, vous testez positif.
Alors,
oui, 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 c'est hyper compliqué. Et vous devez offrir votre calendrier annuellement là, où vous allez être pendant les 365 jours qui s'en viennent à votre fédération ou à l'agence antidopage parce que eux, s'ils décident qu'ils font un test opiné, là, inopiné, alors, mais il faut qu'ils vous trouvent. Puis si vous n'êtes pas là, c'est de votre faute. Alors, si, disons, vous dites que vous allez, par exemple, aller à Cuba en vacances, ben ça se peut que vous ayez un test inopiné à Cuba qui va arriver à 10 heures le soir, 11 heures le soir. On va venir cogner à votre porte, puis vous devez tester. Et alors, l'horaire est hyper strict et chaque athlète...
C'est où l'endroit le plus bizarre que tu t'es fait tester? Tu t'es fait arrêter puis dire, Jean-Luc, il faudrait tester?
Ah, c'est une bonne question. Je me rappelle à vers 10h30 le soir au lac Placide, mais on était dans un motel miteux au lac Placide à l'époque. Là, c'était le motel chez Roger, puis Roger, puis non, c'était le Alpine Air qui s'appelait. Et puis, un test antidopage, tu sais, c'est dans le... Tout le monde en parle, des tests antidopage, tout ça, mais c'est pas le fun à passer. C'est vraiment pas le fun parce que, bon, en l'occurrence, vous êtes un homme, ben vous avez un préposé homme qui va à la toilette avec vous. Vous devez baisser vos culottes jusqu'aux genoux. En fait, le gars, il est pas derrière vous. Là. Le gars, il est à côté de vous, puis il regarde toute votre anatomie, puis il vous regarde faire pipi dans le petit pot. Puis il y a quand même, essayez de faire pipi quand il y a quelqu'un qui vous regarde, là. C'est quand même une épreuve sportive en soi, je peux vous dire ça. Puis il y a toujours un certain traumatisme. Là. Avant d'avoir à 10h30 le soir, vous n'êtes peut-être pas nécessairement en vie. Là. Ouais. Ça fait que là, ben, vous pouvez pas prendre la bière, vous pouvez pas prendre du jus de fruits, il faut que vous variez vos drinks pour pas que ça donne le même type de liquide. Puis ensuite, ben, moi, mon running gag, parce que c'est jamais le fun de faire ça, puis j'avais un peu de compassion pour les gens qui étaient obligés de le faire, mais mon running gag, c'était que quand finalement vous avez envie, vous avez plus qu'envie que votre petit pot qui vous donne, là, votre échantillon. Ça fait que quand j'avais terminé, je le prenais, je le donnais au gars, je disais, tiens, ça, je vais finir mon petit pipi, puis je vais le prendre après. Alors, ça faisait partie des petits jeux qu'on faisait avec ces gens-là. Puis après ça, ben jamais, outre ce moment-là, jamais l'échantillon ne vous quitte. Dans le sens que vous maniez tous vos échantillons, vous allez à une table, on vous laisse choisir dans une espèce de deux barils de poubelles d'échantillons de vide, et vous allez verser votre échantillon A, ben votre échantillon principal, vous allez verser dans le portillon A et B, dans les petites éprouvettes A et B. Vous allez mettre les labels, les étiquettes vous-même par-dessus. On vous demande d'assurer que tous les numéros fit, et ensuite, vous n'êtes jamais identifié. Alors, quand les gens passent des tests, simplement, à la toute fin, ils peuvent relayer. Le gars qui passe les tests, c'est pas que c'est vous, pardon, que c'est Jean-Luc Brassard ou que c'est Martin Lemay, c'est juste un numéro qui apparaît. Et à la toute fin, si c'est positif, tout de suite après, j'imagine que ça ressemble un peu à un test de grossesse, c'est-à-dire qu'il passe un échantillon sommaire, un petit bout de papier, bon, avec des cristaux dessus, et puis tout de suite, il y a une espèce de petite barre qui affiche, puis là, vous savez si vous allez être négatif ou positif. Alors, puis après ça, ben après ça, vous avez des rendements officiels qui sortent.
Toi qui es blanc comme neige, là, t'avais-tu quand même un petit stress?
Toujours, parce que à un moment donné, on a appris que les fameux suppléments alimentaires, là, créatine et compagnie et toute affaire, là, les poudres là pour régénération des muscles, peu importe, là, comment, c'est beaucoup les culturistes qui utilisent ça. À l'époque, là, ça a peut-être changé une remarque, là, mais à l'époque, tous les ingrédients n'étaient pas obligés d'être inscrits sur le... Puis c'est des ingrédients, là, il faut vraiment que vous ayez votre petit livre. Chaque athlète, donc, voyage avec son petit livre pour savoir quel médicament il peut acheter, lequel va tester positif.
Mais quand vous regardez
c'est vraiment compliqué. Et puis, donc, à l'époque, on savait que ces suppléments-là alimentaires pouvaient nous faire tester positif. Alors, on ne sait jamais. Puis, tu sais, des fois, on fait des ententes. Nous autres, je me rappelle qu'on allait skier dans les Alpes, on faisait des ententes avec les restaurateurs. Bon, peux-tu me faire un meal plan, mettons, à l'équivalent de 12 piastres par jour, puis on va aller souper chez toi parce que on est curé de se faire du spaghetti dans nos chambres. Mais est-ce que, tu sais, on faisait confiance au gars que tout est legit dans sa cuisine.
Dans son spaghetti.
C'est un peu un test à l'aveugle. Ben, tu sais, ça peut arriver. Puis Alexandre Bilodeau, au jeu de Sochi, il était pas fin, les Russes, là, à Sochi. Alexandre Bilodeau a été pris de crampes sévères quelques heures avant la finale de Boston. Mais c'était le seul, là, des crampes sévères à l'estomac, à tel point que et puis il est passé au village manger là, avant d'aller faire sa performance. Et quand il montait dans le télésiège entre ses rangs d'entraînement, le seul moyen qu'il puisse arriver en haut, c'est qu'on lui mettait en bas, là, dans le télésiège, on lui mettait une bouillotte d'eau chaude sur l'estomac pour essayer de faire passer le malaise. Et puis en haut, il enlevait sa bouillotte, il faisait sa descente d'entraînement, puis en bas, on lui remettait une bouillotte. Et souvent, ça, ça a été une plainte qui a été formulée de façon officielle à Sochi. Il y a plusieurs athlètes qui étaient catégorisés comme étant des gagnants ou des podiums potentiels qui ont été pris, qui ont été obligés de faire des tests inopinés à quelques minutes avant de partir pour les entraînements officiels. Donc, ils perdaient une demi-heure, une heure d'entraînement vis-à-vis des autres, point qu'il y a eu une plainte officielle qui a été faite vis-à-vis le comité russe. Et parce que moi, j'avais jamais vraiment vu ça, mais c'est des choses qui sont arrivées, puis c'est des choses qui sont, heureusement, qui se produisent pas dans tous les pays, mais on peut dire que les Russes étaient pas fins, là, dans certaines. C'est pas que tout le monde l'était, là, mais ceux qui avaient pensé à ça, c'était pas fin.
Pour Alex Bilodeau, on est content qu'il avait juste besoin d'une bouillotte et non d'une couche.
Et tellement, parce que c'est pas facile, là, l'hiver, là, vous avez pas... il fait moins 20, là.
Ah non, c'est ça.
C'est pas nécessairement facile d'accès.
Hey, t'avais une anecdote à me conter, une histoire de taxi, mais comme toute la semaine... On va mettre ça dans le bagage d'expérience, puis on va garder ça pour lundi, parce que on n'a pas le temps. C'est tellement bon, Jean-Luc, là. T'as tellement d'histoires à raconter, c'est superbe. Je te remercie, puis je te félicite de ce que tu nous donnes, puis on se rejoint la semaine prochaine.
Excellent, à lundi.
Merci, Jean-Luc, bye-bye. C'était l'excellent Jean-Luc Brassard. Écoute, obligé de monter dans la chaise avec une bouillotte. Mais remarque, c'est pas si pire que ça, des fois tu gèles. Fait que ça peut te réchauffer un peu la bouillotte. Au retour, un film sur Villeneuve, un film sur les sœurs Williams, puis bang, un documentaire sur Michael Schumacher. On en parle dans 2 minutes.